Je ne sais pas si vous aimez le rap, Sophie, mais Xi Jinping, oui, lui, n'aime pas du tout le rap. Il n'aime pas le rap chinois. Il considère que l'art doit promouvoir les valeurs du parti et les valeurs socialistes aussi. Alors on écoute cette musique qui défrise Xi Jinping. Du rap chinois, du rap que n'aime pas Xi Jinping, Xi Jinping qui pourrait présider la Chine à vie. Et justement, l'éditorial du New York Times d'hier s'en faisait l'écho. Un pays d'1,4 milliard d'individus va donc vivre dans un régime qui a officiellement tourné le dos à la démocratie et pourtant peu s'en émeuve. La personne pour dire que cet État verse dans le proto-fascisme, eh bien si, on va s'en émouvoir et on va aussi vous expliquer quelle est la situation en votre compagnie, Dominique de Rambure. Bonjour Dominique. Bonjour. De Rambure, vous avez été banquier, vous êtes aujourd'hui professeur à l'université Paris 1, vous avez publié différents ouvrages sur la Chine, notamment Le Grand Écart, le modèle chinois de développement. Xi Jinping n'aime pas le rap, il aime en revanche la musique, puisque sa femme est chanteuse, je crois. Qu'est-ce qu'elle chante ?
Oui, alors elle chante des chansons plutôt, j'allais dire, à l'eau de rose, qui sont destinées à exalter la grandeur du régime et de soutenir ses efforts. En fait, il faut replacer ça dans l'ensemble de la personnalité de Xi Jinping. Xi Jinping, il faut pas se tromper, c'est un apparatchik. Et c'est même ce qu'on appelle un fils de prince. C'est-à-dire que son père a tenu de très hautes fonctions dans le régime. Il a été très proche du régime. Et il a passé un mauvais moment pendant la révolution culturelle, un peu comme tous les cadres. Il est parti en province. Alors aujourd'hui, on présente l'expérience en disant qu'il connaît le peuple, qu'il a
vécu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on peut même dire qu'il est parti de zéro, ce qui est complètement faux.
Ah non, absolument pas. Absolument pas. Il a, quand il a commencé sa carrière, il avait autour de lui tout le réseau de son père qui l'a soutenu et qui l'a poussé pour arriver aux plus hautes fonctions. Donc c'est pas du tout un homme du peuple qui sort de nulle part et qui arrive au pouvoir. Pas du tout. C'est un homme de l'appareil et qui a fait toute sa carrière au sein de l'appareil. Il a monté une à une toutes les marches du pouvoir jusqu'aux plus hautes marches en suivant exactement la ligne et tout ce que cette ligne impliquait.
Aujourd'hui, on dit que cet homme va avoir en quelque sorte le même destin que Mao. Là aussi, c'est une comparaison un peu étonnante, non, Dominique de Rambure ?
Alors, d'abord, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Mao était un tyran. On ne sait pas encore si Jinping le sera. Et Mao avait une autorité, aussi bien dans le peuple que dans le parti, qui le rendait tout puissant, quelles que soient ses fonctions. Je vous rappelle que Mao n'a jamais été président de la République. Il était président du parti, on l'appelait président, mais président, c'était président du parti, c'était pas président de la République. Et les postes de président de la République étaient tenus par des comparses, notamment Liu Shaoqi, qui a été éliminé au début de la révolution culturelle parce que Mao ne pouvait plus le supporter. Bien. Donc, on n'est pas du tout dans la même circonstance.
Le fait de dire que la pensée de Xi Jinping comme celle de Mao va devenir constitutionnelle, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça n'a rien à voir avec la pensée de Xi Jinping. La pensée de Xi Jinping, et d'une certaine façon, c'est tout à son honneur, c'est son action. C'est pas sa pensée. Enfin, il n'y a pas des ouvrages.
Ah, c'est tout à son honneur, c'est ce qui fait de lui un dictateur. Il n'a pas besoin d'avoir un programme aussi, Dominique de Rambure.
Oui, mais ça, la notion de programme est totalement étrangère au système chinois. Quand vous avez un renouvellement des équipes, comme ça s'est passé l'année dernière avec le 19e congrès du parti, Xi Jinping n'est pas venu pour défendre un programme qui a été accepté par le parti. Il est arrivé avec une équipe qui avait été constitué au terme d'une procédure extrêmement opaque, où il essaye de rassembler autour de lui plusieurs factions.
Mais alors si on essaye de se projeter dans l'avenir, parce que malgré tout, Xi Jinping est arrivé au pouvoir il y a quelques années, donc on sait déjà ce qu'il a fait. Bon, le programme a posteriori de Mao, hélas, on le connaît. On sait à quel point sa pensée a été sanguinaire, sa conception de l'économie folle. Celle de Xi Jinping, quelle est-elle, Dominique de Rambure ?
Alors disons que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que son programme, pour autant qu'on puisse le définir, est assez bien circonscrit. Il correspond d'ailleurs, je pense, aux aspirations de la population comme des cadres membre du parti, mais ce n'est pas un intellectuel comme Mao. Mao avait une, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il avait une certaine vision, et notamment, il est très respecté encore par la population, parce que c'est le dernier empereur. C'est le dernier empereur qui a rassemblé la Chine après des siècles de d'épreuves. Bon, Xi Jinping, c'est pas du tout ça. Et sa pensée, pour autant qu'on puisse la définir, est plutôt s'inscrit dans la ligne de Deng Xiaoping. Je parle pour le fond, son objectif.
Donc c'est un pragmatique.
Oui, c'est un pragmatique, comme Deng Xiaoping, il expérimente différentes solutions, il y en a une qui marche, on la retient. Mais il y a une limite à tout ça. La limite, c'est le pouvoir du parti. Et c'est là où, comme je le disais, il y a un grand écart, c'est que à chaque fois qu'on aborde des réformes économiques, ces réformes économiques visent à libérer les forces créatrices de la Chine pour en faire une grande puissance, mais le problème, c'est que plus vous libérez l'économie, les entreprises, plus le parti prend la place de l'État. C'était que l'État recule, mais le parti vient occuper la situation abandonnée par l'État.
On insiste beaucoup sur le style chaleureux de l'homme Xi Jinping. Vous faites l'amour, vous n'avez pas l'air de le trouver très chaleureux.
Oui, alors ça c'est de la...
La propagande.
La propagande, oui. Appelons les choses comme elles n'ont. Donc on voit effectivement partout dans Pékin et ailleurs des grandes affiches avec le sourire souriant que nous connaissons de Xi Jinping. On le voit entouré d'enfants. Ça, c'est un grand classique de tous les régimes autoritaires, pour ne pas dire totalitaires. Il est entouré de jeunes souriants, de femmes qui se précipitent, voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en l'espace de quelques années, hélas, ça n'est pas seulement le cas en Chine, mais pour qu'en l'espace de quelques années, on passe d'un régime qui semblait en transition vers la modernité et la démocratie à un régime qui est toujours en transition vers la modernité, mais qui est victime d'une transition à haut risque, comme vous le dites d'ailleurs dans le titre de votre dernier livre, Dominique de Rambure, et une transition vers un régime très autoritaire.
Alors ça, c'est la grande énigme. Et d'ailleurs, c'est ce que je soulevais dans le livre dont vous avez parlé. Quand Deng Xiaoping a pris le pouvoir, sa politique est une politique d'ouverture. L'une des conséquences, c'était notamment d'avoir un profil bas sur le plan international pour se concentrer sur les problèmes intérieurs. Deng Xiaoping savait que les problèmes qu'il attendait étaient tellement importants, tellement difficiles à résoudre, qu'il fallait pas en plus en rajouter, si j'ose dire, contrairement à Mao. À l'époque, tous les observateurs pensaient que la Chine était sur la voie, disons, du progrès, pour ne pas utiliser de termes plus à connotation politique ou morale. On pensait, il y a eu une visite de Bill Clinton, je crois, en 1995, enfin je ne me rappelle plus exactement, où Bill Clinton a dit « oui, la Chine est sur la voie de la démocratie, avec l'ouverture, avec le développement de l'économie de marché, avec la création du capitalisme, on va voir naître une classe moyenne qui va devenir de plus en plus exigeante, non seulement comme consommateur, mais également comme citoyen, et donc nous sommes sur la voie de la démocratie, ça prendra du temps, mais nous sommes dans la banque directe. »
Et en 2000, par exemple, on pouvait tenir à peu près n'importe quel discours.
Absolument. Et aujourd'hui, on est exactement dans la situation inverse. Alors je pense que la clé du problème, c'est le parti. C'est-à-dire, il y a une des obsessions du parti, même depuis Deng Xiaoping. Toute la stabilité du régime repose sur le pouvoir du parti. Le parti contrôle tout. Le problème, c'est que le pouvoir, c'est un système invasif, si j'ose dire. Le pouvoir, par définition, vous n'en avez jamais assez. Donc le pouvoir s'étend, gagne de nouvelles zones, etc. Donc il y a une période de libéralisation, ne disons pas plus, à la suite de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping était assez tolérant, il tolérait certaines choses. Mais quand l'épreuve est venue en 89, avec les événements de Tiananmen, Deng Xiaoping, à mon avis, n'a même pas hésité, mais s'il a hésité, il n'a pas hésité longtemps. Il fallait réaffirmer à tout prix le pouvoir du parti, c'était la clé. Et il était obsédé par la chute à peu près contemporaine de la Russie, où la chute du mur a entraîné une déliquescence de tout le parti. Donc le pouvoir du parti est resté la clé du système jusqu'à aujourd'hui.
Il semblerait néanmoins que Xi Jinping ne soit pas complètement serein, c'est-à-dire que, comme la plupart des dictateurs, il soit paranoïaque et qu'il ait de bonnes raisons de l'être, tout simplement parce qu'il a des ennemis à l'intérieur du parti, cet homme Dominique de Rambure.
Alors là, on assiste effectivement à un tournant. Et comme vous le dites très justement dans votre ouverture, c'est un tournant qui n'était pas évident. On aurait pu penser qu'effectivement les choses allaient, il y avait des élections qui se faisaient ici ou là, etc. Or tout ça est arrêté. Et Xi Jinping, depuis 5 ans, a pris un virage extrêmement net. Il rappelle le pouvoir du parti en toutes circonstances. Il a promu des cours de... Il veut s'opposer à l'invasion des idées occidentales. Il faut que ce soit un socialisme à haut caractère critique chinois. Donc on a rétabli des cours de marxisme-léninisme obligatoires dans les universités, dans les écoles. On élimine de la culture toutes les références. Vous parliez du musique, voilà, du rap. On élimine toutes les références à l'Occident. Il y a donc un tournant qui est à la fois nationaliste et idéologique.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Marx, le marxisme, son marxisme, est une série de contresens sur ce que voulait véritablement Marx. Et donc, on a du mal à saisir ce que recouvre le mot socialisme, sachant que c'est un régime capitaliste sans pitié, la Chine, aujourd'hui.
Alors, vous avez tout à fait raison. Si vous prenez la doxa du parti, l'économie socialiste de marché, vous réfléchissez un peu, vous apercevez que ça ne tient pas debout. Hein. Ou c'est l'économie de marché, ou c'est le socialisme. Mais on voit difficilement comment concilier les deux. Mais on a rajouté aux caractéristiques chinoises. C'est là qu'est tout le problème. À mon avis, le régime actuel procède moins du marxisme-léninisme, qui est un, comment dirais-je, on ressasse indéfiniment des formules un peu vides, qui n'ont pas grand sens. En revanche, le régime, lui, est tout à fait dans la continuité de l'histoire chinoise. Il faut remonter jusqu'à avant la création de l'Empire chinois. Il y a eu une efflorescence intellectuelle extraordinaire dans les années qui ont précédé la création de l'Empire, au 3e siècle avant Jésus-Christ, et notamment ce qu'on appelle l'école des légistes. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'école des légistes, qui est un peu ce qui s'est passé en Europe, rappelez-vous, Philippe le Bel, etc. L'idée, c'est que le pouvoir est absolu et il est obligatoirement seul. C'est la nature du pouvoir. Le pouvoir ne peut pas être limité. S'il est limité, c'est plus le pouvoir. Donc la loi est la loi, mais la loi elle est arbitraire. C'est le pouvoir, c'est-à-dire c'est l'empereur qui décide arbitrairement quelle est la loi.
Mais alors ce qui est étonnant, c'est que lorsque vous insistez sur les caractéristiques chinoises qui seraient donc à l'origine donc du pilier du régime tel que le voudrait Xi Jinping, on sait par exemple que Simon Leys, le sinologue, qui a été l'un des premiers en Occident à expliquer ce qu'était véritablement le maoïsme, c'est-à-dire encore une fois une tyrannie sanguinaire, Simon Leys a été le premier à montrer à quel point Mao piétinait la tradition chinoise.
Alors il faut bien se souvenir que Simon Leys était très isolé et très critiqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, mais il y a eu des attaques extrêmement violentes et j'allais dire malfaisante sur sa personne. Il était très isolé parce que personne à l'époque ne pensait que Mao, bon, il y avait un peu des travers, c'était comme Staline, mais finalement c'était un homme de progrès, c'était un homme qui avait rassemblé la Chine, c'était un homme qui avait mobilisé les énergies, et rappelez-vous, il y avait même des maoïstes en France qui
ils sont d'ailleurs ils sont plus maoïstes, mais ils sont toujours là.
ils sont toujours là avec la même autorité et la même donc il y avait un certain attrait, il y avait un certain aujourd'hui les choses ont un peu changé. C'est-à-dire, je crois que dans les pays occidentaux, la pensée de Mao ou la pensée de Xi Jinping ne fait plus vraiment rêver. Mais en revanche, beaucoup de pays sous-développés sont très attentifs. Et la Chine présente, et Xi Jinping en particulier, présente le modèle chinois comme un modèle universel qui peut être adopté par un certain nombre de pays sous-développés qui sont déçus par la démocratie, aussi bien la démocratie dans leur pays qui n'arrive pas à s'implanter, que la démocratie dans les pays développés et occidentaux qui, il faut bien le dire, rencontrent beaucoup de problèmes.
Justement, dans les mesures que semble prendre Xi Jinping, il y en a une qui pourrait nous alerter. Quand on parle de démocratie populaire, c'est qu'il n'y a pas tellement de démocratie. Quand on parle de nouvelle capitale, ça veut dire
ni démocratique ni populaire.
Quand on parle de nouvelle capitale, ça veut dire aussi qu'il y a un problème. On l'a vu en Birmanie, qu'il y a une nouvelle capitale, Naypyidaw, qui est une capitale complètement aberrante. Et il y aurait, semble-t-il, un projet pour construire aujourd'hui une nouvelle capitale en Chine. Pourquoi, expliquez-nous, Dominique de Rambert.
Alors, ça, c'est un grand fantasme de tous les régimes totalitaires. Je ne voudrais pas faire de mauvaises comparaisons, mais rappelez-vous, Hitler voulait construire une nouvelle capitale qui serait consacrée à la gloire du pays. Bon, oublions ce souvenir malheureux, c'est pas la même chose. Mais enfin, il reste, dans tous les régimes totalitaires, sans exception, cette espèce de rêve, de fantasme, de créer à partir de rien un homme nouveau, une ville nouvelle, etc. Le malheur, c'est que la plupart des villes nouvelles sont des villes totalitaires où l'individu est complètement isolé, il n'a plus aucun contact avec ses voisins, il n'y a plus de société civile, il n'y a plus de liaison transversale, il n'y a plus que des liaisons verticales. Et d'ailleurs, souvent, l'architecture et l'urbanisme de ces villes expriment, si j'ose dire, de façon visuelle, cette nouvelle hiérarchie verticale.
On continue dans les problèmes qui sont actuellement les problèmes chinois, et notamment le problème des territoires occupés. Je veux parler du Tibet, qui aujourd'hui est là aussi dans une situation qui est extrêmement inquiétante, même si on en parle très peu.
Alors, ça c'est il faut dire que le grand succès de Mao et du régime, ça a été le rassemblement du pays. En 1949, depuis près d'un siècle, la Chine était éclatée entre les seigneurs de la guerre, entre les puissances étrangères qui occupaient des parties du territoire. Tout le monde dépeçait la Chine, etc. Bon, donc en 1949, j'allais dire plus que le régime socialiste qui s'est implanté, le régime communiste, c'est la résurrection de la Chine unie, rassemblée. Or, la Chine n'est pas un royaume ou un État, c'est un empire, depuis toujours. C'est-à-dire, c'est un État qui rassemble des populations extrêmement diverses. Je vous rappelle du temps de l'empire, les édits de l'empereur, et on peut le voir encore dans les monuments qui subsistent, étaient traduits en différentes langues, car il fallait que tout le monde le comprenne. C'était traduit non seulement en chinois, mais également en tibétain, en ouïghour, en manchou, en mongol, etc. Bon. Donc, il fallait rassembler tous ces pays. Les populations minoritaires représentent peu de choses dans le total de la Chine. Mais la Chine n'a jamais été un pays décentralisé. Nous avons connu le féodalisme où il y avait des régions qui échappaient un peu au pouvoir central, mais ça n'a jamais été le cas de la Chine. Et la Chine est toujours revenue à un État centralisé. Donc le problème, c'est que le Tibet, le Xinjiang, d'une certaine façon la Mongolie, et pourquoi pas la Mandchourie, sont des pays qui ont une langue particulière, qui demandent un certain niveau d'autonomie, et ceci est radicalement contradictoire avec le régime du parti.
Existe-t-il aujourd'hui, Dominique de Rambure, une opposition, un semblant d'opposition à Xi Jinping en Chine ?
Alors, premièrement, compte tenu du régime très centralisé et construit uniquement autour du parti, il n'y a pas d'opposition extérieure au parti. Ça, c'est inacceptable. Dès que se forme une certaine opposition, que ce soit les dissidents, que ce soit les ONG, que ce soit les avocats qui défendent les droits civils ou les femmes enceintes ou tout ce que vous voulez, cette opposition n'est pas tolérée. Elle est réprimée de la façon la plus brutale et immédiate. Rappelez-vous la mort du prix Nobel de la paix qui est mort devant les caméras alors qu'on lui refusait de partir à l'étranger, se faire soigner et essayer d'avoir une mort un peu plus. Bon. Donc le régime est intolérant sur ce problème. En revanche, à l'intérieur du parti, il y a beaucoup de discussions. Et d'une certaine façon, jusqu'à aujourd'hui, ça va peut-être changer, jusqu'à aujourd'hui, la discussion était relativement ouverte. Il y avait des débats à l'intérieur.
Alors ça a un peu changé, puisque l'un des deux dauphins de Xi Jinping a malheureusement eu sa carrière écourtée.
Alors, ça c'est je veux dire, aussi une tradition des régimes totalitaires. On élimine tous ceux dont la tête dépasse.
Hein. Pour le dire explicitement, cet homme dont vous allez nous donner le nom est aujourd'hui en prison. Il a été accusé de corruption alors que la corruption ne semble pas être uniquement son apanage.
Alors, il faut savoir que la corruption, et si j'ose dire, inhérente au régime, et ne stigmatisons pas la Chine, elle est inhérente à toute l'histoire de la Chine, et on pourrait rentrer dedans, il y a beaucoup d'explications, mais elle est aussi inhérente à tous les régimes totalitaires ou fortement centralisés. Quand un fonctionnaire a tous les pouvoirs, et bien évidemment, il est tenté de faire payer les permis de construire ou toutes les autorisations qu'il est demandé.
La fortune de la famille de Xi Jinping est estimée à 1 milliard de dollars.
Oui, enfin les chiffres sont extrêmement variés, mais c'est pas le premier. Je vous rappelle qu'il y avait eu un article dans, je crois que c'était le Wall Street Journal, qui avait déclaré que la fortune de Wen Jiabao, le précédent premier ministre, était de l'ordre de 3 milliards de dollars. Donc c'est une pratique extrêmement répandue. Je vais vous donner un simple indice. Les statistiques des flux financiers entre la Chine continentale et le Hong Kong, les statistiques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour Hong Kong, les entrées sont le double des sorties déclarées par la chaîne continentale. Bon, c'est un exemple.
Donc, il y a un petit problème. Dominique de Rambure, on se retrouve en seconde partie. Je rappelle le titre de votre livre, Chine, une transition à haut risque. On va évoquer cette fois-ci les risques vis-à-vis de l'extérieur, parce qu'il y a une politique extérieure et cette politique extérieure semble menaçante. Vous serez rejoint par la chercheuse Alice Ekman.